à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce mercredi 20 mars, la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue a rencontré le ministre de l'Agriculture André Lamontagne au sujet de l'assurance récolte foin. Pascal Rau, président de la Fédération régionale, y était et a senti une bonne écoute de la part du ministre Lamontagne.
Il y avait vraiment une écoute attentive, c'est sûr qu'on a pesé sur l'urgence, là, que ça doit pas traîner des mois et des mois. Là. C'est dans ce contexte-là, je pense que le ministre est à l'écoute. Il va avoir de quoi assez rapidement de mis en place, là, pour essayer de supporter les producteurs.
Il faut dire que le fossé est creux entre la Fédération et la financière agricole. La Fédération a adressé une demande d'indemnisation de 3 800 000 $ au ministre de l'Agriculture pour les 120 producteurs et productrices assurés en Abitibi-Ouest, à Rouyn-Noranda et en Abitibi.
Oui, c'est quand même beaucoup, là. C'est pour ça qu'on voulait vraiment parler au ministre, parce qu'au niveau de la financière, je pense qu'on a fait notre job. On a eu tellement de rencontres. Je pense qu'il y avait le topo du terrain. Ils ont pas livré, là. À jusqu'à date, c'est sûr qu'eux autres, ils se disent tout le temps. Au niveau des compensations qu'on a eues, ben là, c'est 6,8 millions, puis on n'a jamais compensé de même. Oui, mais les pertes étaient de beaucoup supérieures à ça, là. On a réitéré, là, qu'il faut vraiment avoir des aides supplémentaires ou un fonds d'assurance mieux réparti, là.
Monsieur Lamontagne est lui-même venu constater l'ampleur de la catastrophe et a admis que les compensations reçues jusqu'à présent n'étaient pas suffisantes, ce qui est un pas dans la bonne direction. Il faut savoir que depuis l'été dernier, l'Union des producteurs agricoles documente les pertes sur le terrain et leurs données diffèrent de ceux recueillis par la financière agricole.
Souvent, c'était des observations terrain qu'on a amené à la financière. Mais maintenant, on a eu des observations scientifiques. On avait quand même un agronome qui était avec nous, qui travaille sur le terrain. Puis on a Carole de Lessé-Lafrenière qui a quand même fait des observations puis qui nous a fait un document là-dessus. Puis Frédéric a laissé la vallée aussi. C'est quand même des chercheurs. Fait que je pense que le ministre était conscient de ça avec toutes les données qu'on a emmenées. C'est scientifique que ça fait qu'il n'y avait pas de reprise à la deuxième coupe et ainsi de suite. Souvent, nous autres, on y allait avec nos observations, mais on dirait que c'était pas assez pris en compte.
Monsieur Rau nous décrit la suite de cette rencontre avec le ministre de l'Agriculture.
Ben, c'est sûr qu'ils vont déjà commencer à nous poser des questions pour un peu valider nos informations qu'on a données hier. Comme j'ai répété au ministre, il faut que ça soit fait assez rapidement. Puis on sait que c'est peut-être un secteur au niveau du Témiscamingue qu'on a moins entendu parler, mais qui était vraiment touché aussi par la sécheresse. Un secteur plus conscrit là, au niveau du Témiscamingue, au niveau de la financière, on verra quelles données qu'ils veulent avoir. Mais nous autres, c'est vraiment avec le bureau du ministre qu'on veut travailler.
Le transport adapté et collectif du Témiscamingue se dote d'une nouvelle planification stratégique. Son but est de répondre aux besoins actuels et futurs de mobilité de la population et des visiteurs du Témiscamingue. Comme l'explique Anne Villeneuve, directrice du TACT, cette planification est issue d'une consultation du milieu.
Dans les trois dernières années, nous, au Transport adapté collectif, on avait décidé d'embaucher un agent de développement pour travailler la concertation locale des acteurs qui travaillent au niveau du transport. Soit que leurs membres ont besoin de transport, soit eux-mêmes ont besoin de transport, mais vraiment travailler au niveau communautaire, scolaire, municipal, comment on peut faire en sorte d'améliorer, de rendre accessible, simple, vraiment le transport au Témiscamingue dans toutes les sphères du transport.
Ce plan stratégique vise à transformer la mobilité de notre territoire jusqu'en 2030.
Pendant la dernière année, on a travaillé avec des consultants qui sont spécialisés dans le transport collectif rural, qui est l'entreprise Vector 5. Donc, avec eux autres, on a fait un portrait, un diagnostic. On a travaillé à c'est quoi nos enjeux, quelles solutions ou pistes de solutions on pourrait amener pour vraiment mettre après ça sur des mots, qu'est-ce qu'on peut faire. Des options de transport, on en a. Mais comment rendre ça facile, simple, puis comment la bonifier puis l'améliorer pour répondre à tous les besoins de notre population, le besoin de nos nouveaux arrivants, le besoin de notre population aînée, les besoins de nos étudiants qui ont à se déplacer aussi des fois dans d'autres MRC, le besoin des gens qui ont besoin d'aller à des rendez-vous à l'extérieur de la MRC aussi au niveau médical.
Quatre axes majeurs d'intervention sont prévus, soit l'optimisation de la gouvernance et de la gestion, l'amélioration de l'offre de services en transport collectif et adapté, le renforcement de la promotion et la communication et le développement de partenariats stratégiques.
Puis on veut aussi travailler en partenariat avec le régional, parce qu'on a tous les mêmes enjeux à peu près. La diversité du territoire, la grandeur, le vouloir garder notre vitalité de territoire, c'est partout en Abitibi-Témiscamingue. Fait que comment on peut se mettre ensemble pour peut-être trouver une solution technologique qui va être moins coûteuse, puis qui fera en sorte que ça serait plus facilitant, mais toujours en gardant un service humain, avoir quelqu'un qui répond au bout du téléphone, parce que nos clientèles vulnérables, faut toujours en tenir compte. Faut pas toujours tenir compte d'une sorte de clientèle, faut avoir des yeux pour tout le monde, puis des fois, prendre le téléphone puis appeler, c'est plus facilitant pour une clientèle. Donc, on va essayer de répondre à tout le monde.
Tous les établissements scolaires du Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue seront ouverts le lundi 8 avril, jour de l'éclipse solaire. Des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité de tous les élèves. Tania Neveu, responsable des communications au Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue, explique.
Nous, on trouvait ça important d'offrir cette journée-là quand même aux élèves et de ne pas mettre une journée pédagogique en place. Donc, c'est une journée d'école normale, mais évidemment, il fallait mettre en place des mesures de sécurité pour respecter un peu aussi les enlignements gouvernementaux. Donc, ce que les parents doivent savoir, c'est que le transport scolaire est assuré normalement pour tout le monde, là, le 8 avril au matin. Donc, il n'y a aucun changement si votre enfant est habitué de prendre l'autobus à 8 heures le matin ou à 7h30 le matin. Ça aura lieu comme à l'habitude.
Certains changements viendront toutefois modifier l'horaire habituel pour le retour à la maison. Dans certains milieux, le transport est suspendu en fin de journée et la collaboration des parents sera demandée pour le retour à la maison. Tous les parents recevront une communication de leur école à ce sujet et doivent vérifier leur courriel et la documentation reçue par leur enfant. Des accommodements sont offerts aux parents pour les services de garde.
Qu'on offre à nos parents pour les accommoder dans ce changement-là au niveau de la fin de la journée, c'est le service de garde qui est offert dans tous les établissements primaires, préscolaires primaires, en fin de journée, qui est offert gratuitement pour tout le monde, même les usagers qui l'utilisent déjà et même les parents qui voudraient bénéficier de ce service-là. Donc, moi, comme parent, je peux pas récupérer mon enfant, par exemple, à 15h30, je peux l'inscrire au service de garde et j'ai récupéré mon enfant à l'intérieur de l'école au moment que je jugerai opportun. Donc, certains services de garde vont être ouvert jusqu'à 17h, d'autres 18h. Ce qui va être vraiment important pour les parents, c'est de vérifier les courriels, de vérifier les communications qui vont être transmises via leur enfant à la maison. On a envoyé des lettres à tout le monde concernant les modalités pour chaque école. On a envoyé aussi des informations pertinentes concernant la sécurité lors de cette journée qui est pour le moins spéciale. Donc, en gros, c'est ce qui va se passer.
Et le Barreau du Québec tiendra une activité d'information juridique à Rouyn-Noranda et une autre à Val-d'Or vendredi. Ces activités se dérouleront aux deux palais de justice durant toute la journée. Ce sera une bonne occasion pour le public de s'informer de ses droits en présence d'étudiants universitaires accompagnés d'avocats chevronnés. Pour l'ex-bâtonnier et chroniqueur à CKVM Marc Lemay, et le public et les futurs avocats ressortiront gagnants de cette expérience.
C'est une bonne initiative d'aller au-devant du public et de leur expliquer, de dire c'est quoi, et de permettre aux étudiants de vivre dans le vrai monde, de voir c'est quoi sur le terrain, et de débarquer de leur code, puis de débarquer de leur tour d'ivoire que sont les universités. Non, moi je trouve que c'est une excellente initiative. Maintenant, elle est bien encadrée, c'est ce qui compte.
Il s'agit de rencontres variant entre 15 et 30 minutes. Un formulaire de consentement devra être signé avant les consultations. Les sujets qui peuvent être traités sont le droit de la famille, de la jeunesse, criminel et pénal, administratif, tribunal administratif du logement, CNESST et SAAQ. Ça complète vos informations régionales. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.